lentement, doucement, en pas chassés comme sur des galets dans la lumière du matin, tu as procédé vers l'homme qui offre le mur de ses épaules, et se rapprochant, tu t'es penché vers lui, sur lui, tu as passé tes bras autour de son cou, sur son cou, tu t'es baissé, et à bonne distance, tu as murmuré, susurré dans le creux de son oreille, avec une suavité nette et chaleureuse qui fait le timbre de ta voix, formulant une requête proprement étonnante, comme le chant d'un matin détouré de toute autre exigence, tu as dit, du bout des lèvres, collé près du lobe, à la manière d'une boucle tendre, cherchant à annuler l'air qui séparait ta bouche de son oreille, tout près, trop près peut-être, tu as dit, offre-moi, je te prie, la paupière auriculaire. Requête que lui, le démantelé, concentré, eût-il pu, n'aurait certes pas écarté d'emblée, car pour lui chacune de tes requêtes est un don d'existence, mais accueilli à coup sûr par un haussement d'épaule, ne fût-ce le double poids de ton corps amouré et de ta demande exigence. Mais le mal de ce bien était fait, et la potion avait glissé le long du creux de l'oreille à l'enseigne d'un vent coulis, terme qui n'est pas mal choisi tant il fait penser à ce qui s'écoule et s'écoulant nous retient et se déversant nous renverse et qui est du temps et qui est cet adjectif coulis qui vient comme le nom de couler mais ne s'emploie que pour le vent. Vent coulis qui se glisse par les fenêtres et les clôtures et c'est bien ainsi que le long du canal circula tourbillonnant ta requête coulissante et non pas couleuvrine car dans le creux de l'oreille, comme du vague, il ne sera pas question de sifflements qui seront sur nos têtes, mais dedans, dans l'espace du dedans, ouvert par le creux de l'oreille. Offre-moi, je te prie, la paupière auriculaire, comme on dirait, dessine-moi, chante-moi, invente-moi, ici, exaucé en moi, crée pour moi la paupière auriculaire. Oh, ce n'est pas difficile. Son heure viendra et il suffit, dis-tu, darwinienne, de développer un peu le tragus de l'oreille, ce petit bout de chair qui protège partiellement déjà notre conduit auditif et qui a la forme d'un triangle avançant vers le bord de l'oreille, comme la pointe d'un drap de peau, un triangle qui chercherait à gagner le bord externe de l'oreille pour la protéger, mais qui reste à mi-chemin, et dont on pourrait exiger l'extension par un décret corporel. À faire le tour du visage, poursuis-tu, l'homme de dos se cale dans l'écoute, on mesure aisément que certaines portes du visage se ferment et que d'autres restent toujours béantes. La bouche a les lèvres, comme les yeux, les paupières, les oreilles et le nez sont exposés en permanence. Et toi, tu dis cela du bout de tes lèvres mi-closes, comme pour concentrer le flux des mots, lèvres que l'homme rêve un moment entrelacées, comme les deux bords d'un ruban, lèvres qui, fermées, n'en font qu'une, pour ta non-sainte prédication, cordelette en tout, qui devient fil de voix fort douce. Et tu dis cela en fermant les paupières, et l'homme rêve qu'il embrasse tes paupières et ne peut s'empêcher de tresser son rêve avec ses lectures, et se souvient que palper brousse vient de palpo, je palpe, je touche, et que touchent les paupières, sinon la surface du monde. Et sans se retourner, mais en penchant la tête sur ton avant-bras, pour que ta main se trouve prisonnière de son cou, entre sa joue et son épaule, il te fait remarquer que c'est ce qui nous protège de ce monde qui le touche de plus près. Paupières, clignotants faciaux, ce sont bien des lèvres, dis-tu. Et peut-être avons-nous ces deux portes pour protéger l'histoire de nos larmes, et c'est sans doute pour cela qu'elles sont si fines et comme privées de chair. Ainsi, l'histoire de nos larmes commencerait par ces portes légères et se poursuivrait dans l'aventure des regards perçants. Et si les poissons n'ont pas de paupières, c'est faute de vouloir pleurer ou pour avoir fait de leur monde un grand bassin de larmes pour y voir plus clair. Et toi, demandes-tu, did you ever go clear? Comme tu as effleuré sa nuque de ton menton, l'homme frissonne et cherche à satisfaire ta requête et rêve ton rêve, le prolonge en méditation sur la nature et la fonction de cette paupière tendue comme un voile sur le creux de l'oreille. Cette requête, depuis le creux de l'oreille, faisant son chemin à la manière d'un poison, et vous pensez au même moment au père d'Hamlet, le fils du Tragus, le bouc endormi au verger, ne percevant pas que l'oncle perfide, s'étant rapproché à la dérobée, va verser sur les porches de son oreille la lépreuse distillation à l'effet si hostile au sang de l'homme, et décrivant son trajet, sift as quicksilver, traversant les portes et les allées du corps avant de se figer et de cailler le sang du père. Et l'homme de dos sourit de ce que tu lui racontes, tout cela dans le creux de son oreille, versant le propre poison de ta tendresse dans son corps, et toi, tu penses au songe du docteur, peint par Dürer, où l'on voit un démon ailé qui glisse son air mauvais dans l'oreille du dormeur, et l'homme soutient qu'alors, on imaginait qu'une drogue ou un liquide médicamenteux inséré dans l'oreille pouvait agir directement sur le cerveau, puis sur l'estomac, à condition que la membrane fût perforée afin que le fluide trouvât son chemin vers la bouche et pût être avalé. Tu rappelles, adorable prêcheuse, que c'est Bartolomeo Ostaccio qui a décrit le premier en 1563 la connexion interne entre l'oreille et la gorge par un conduit osseux, ce canal, cette trompe auditive, recevant son nom, trompe d'Eustache, de son découvreur. Et tu dis que c'est justement ce genre de désagrément que pourrait corriger la paupière auriculaire. Organe surnuméraire, voué à fermer les écoutilles, alors picoté par la pointe de tes cheveux odorants et toujours sans se retourner, l'homme objecte qu'avec cette paupière, Marie n'eût pas enfanté, puisque c'est précisément par l'oreille que se serait accompli et l'annonciation, comme un vent frais cette fois dans un matin de clarté, et l'enfantement. Et tu ris, ou plutôt tu souris, et il te voit sourire alors qu'il te tourne le dos et que tes lèvres ne se détachent pas du creux de son oreille. Et alors, de l'épreuve de la traduction, tu apprends la force de l'expression. Le creux de l'oreille, tu la saignes, le creux de l'oreille, non è il buco dell'orecchio. Tu le dirais presque avec colère, tant le mot buco a quelque chose de brutal et de franc qui renvoie à d'autres orifices, et tu soutiens alors que le creux est sans doute moins et plus que le trou. Ce n'est pas le rien du trou, le néant, c'est son épaisseur de vide accueillant, bombé, mieux sa forme. Un trou, c'est un vide. Un creux, la forme d'un vide, le creux de l'oreille, ne relève pas de l'anatomie. Il ne se situe ni au niveau de l'oreille externe, vestibule accueillant et guichet, avec pavillon de province donnant sur la terrasse du monde, conduit auditif conduisant vers l'intérieur, tympan qui mène à l'oreille moyenne, attention à la marche, merci, pièce traversante donnant par ces deux fenêtres ovales et rondes, l'une sur le pharynx, l'autre sur la place Saint-Eustache, avant d'atteindre, à force d'outils, de ferronniers, enclume, marteau étrier, l'oreille interne. Appartement mieux dissimulé avec ses cavités, vestibules, labyrinthes, canaux et cochlés, et tu ne remercies pas pour la visite. De toute façon, les loyers sont trop élevés. Et puis tu n'es pas sûr de vouloir passer une saison trop longue dans cette boîte crânienne, et tu te souviens en plus qu'en hébreu, le lieu du crâne se dit Golgotha. Et tu redis que le creux de l'oreille ne se trouve sur aucun atlas anatomique. Et lui alors te répond qu'il pourrait, en souvenir de la Vénus de Valérie, te proposer un joli tercé comme première approche du creux de l'oreille, puisque à quoi pourrait servir le poème, sinon à faire voir la chose en la faisant entendre dans sa langue ? C'est le oui-dire. Ainsi, regardant droit devant lui et apercevant ton reflet dans la vitre au figuier, il récite le tercé immobile et monotone. Le sablier, qu'empli et vide sa course agile, croule, creuse rumeur de temps, et le facile, goulot, boit les baisers de l'instant qui défile. Et tu comprends alors que le creux de l'oreille, jonction du dedans et du dehors, est ce lieu du langage où tout l'amour du monde verse en temps, se déverse et se reverse. Le mot versura indiquant le lieu ou le moment où la charrue fait demi-tour au bout du sillon. Oh, le micro-sillon du verre. Et tu frémis, car tu comprends que si l'oreille venait à être détachée du corps, coupée, comme le creux de la vague, comme le fit Vincent, le soir du dimanche 23 décembre 1888, quand il traversa la ville d'Arles avec son oreille dans du papier journal pour l'offrir à Rachel, qui tourna de l'œil. Alors, si l'oreille venait à manquer, le langage ne se convertirait plus en temps, et lui qui s'émeut à l'évocation de Rachel te dit « Ô Vincent, que n'y avait-il alors le Christ ?» Et tu dis « Le Christ ?» Oui, car au dernier soir, dans le jardin du Mont, au moment qu'il était livré, et que Pierre, pour le défendre, avait amputé un centurion de son oreille droite, Jésus, on lit cela chez Luc, avait touché l'oreille de l'homme et l'avait guéri en une caresse de chirurgie réparatrice. Malchus, c'est son nom, fut plus heureux que Vincent et récupéra avec son oreille, le creux de son oreille, faute de quoi elle eût sans doute flotté comme le sourire du chat d'Alice et le temps n'aurait plus passé au creux de l'oreille. À Arles, commentes-tu, une fois de plus, le Christ fit l'arlésien. Et Vincent resta sans oreille. Alors tu le comprends, et d'un coup tu te redresses, provoquant chez l'homme un sentiment de froid immédiat. Le creux de l'oreille n'est pas un trou noir. Si le trou noir est cette béance aspirante de la matière qui concentre et fait disparaître l'être, et le parallélisme de leur structure est un leurre. Car oui, si l'on dessine l'oreille, la tête penchée sur le côté, on croit voir parfaitement l'horizon du trou noir et comme un conduit auditif, le cône qui conduit à cette invraisemblable singularité d'une densité telle que le temps et l'espace s'arrêtent dans un point absenté de température infinie, comme l'œil d'un cyclone aspirant le tout, lavabo, vortex, vacuum cleaner, appelant vers lui toutes les barques du fleuve, toutes, et la ville entière, et le ciel, et la campagne, et nous, tout qui l'emmènerait, le trou noir, le lac aussi, tout qu'on n'en parle plus, et de ce point, rien ne pourrait remonter à l'état initial. Comme un point final, absorbant les points de suspension. Mais on a tort. Le creux de l'oreille, scandes-tu, n'est pas un trou noir. Il est tout à l'inverse, le lieu de la versura, où les mots et les musiques ravissantes deviendront langue, seuil incertain où le poète d'Orphée a planté un arbre et érigé un temple, et que si d'aventure il venait à l'idée de quelqu'un de secouer le grand corps des vivants, il verrait tomber par le creux de leur oreille, comme du fond d'un grand sac, la menue monnaie de la vie, ou comme d'un glacier qui déverserait sous le ciel bleuâtre des nuées grises, des corps et des pierres, des arbres, des souvenirs, des regrets, des creux bleu métal sans leurs vagues et des cascades de mots avec leurs charrois de motifs, de sourires, de figuiers, de coups enlacés, de bras doux, de mélodies chantonnées, de panus sur les galets, de fouillés d'existence, de cervidés se jetant avec leurs chasseurs depuis des falaises, de touffes d'herbe, et puis peut-être se désagrégeant, s'effritant, se dépiotant, s'écroulant dans la débandade généralisée, un peu de ce matin où, penché sur le creux de son oreille, tu avais demandé à un homme de dos une paupière auriculaire.